Alain Jaubert, je suis cinéaste, j'ai fait une série qui est assez célèbre sur la peinture qui s'appelait Palette, et j'ai écrit un certain nombre de romans, 3 ou 4 ou 5, je ne me souviens plus, et d'essais. Et je me suis intéressé donc à Homère depuis longtemps, puisque c'est un projet que j'ai échafaudé en 2010 et qui a fini par aboutir ici après avoir été prévu pour Marseille, en fait, Marseille 2013, puis Marseille n'a pas pu le faire. Et du coup, Vincent Pomarède et Jean-Luc Martinez ont décidé que ce serait pour le Louvre-Lens. Voilà.
Donc une rétrospective, enfin, je ne sais même pas, c'est un choix en fait d'œuvres qui correspondent à l'image qu'on aurait d'Homère, c'est un peu ça l'idée?
On a essayé surtout de faire le point sur ce qu'on sait d'Homère. Quand on dit Homère, ce n'est pas un personnage, c'est un personnage énigmatique. En fait, peut-être a-t-il existé, peut-être n'est-il la condensation de plusieurs personnes. En tout cas, on lui a donné au cours des siècles, on lui a donné un visage, ce qu'on voit là, à plusieurs reprises dans l'exposition. Mais ce n'est pas le personnage en soi qui nous a intéressés. Évidemment, ce sont les deux grandes œuvres qui lui sont attribuées et qui sont l'Iliade, récit des derniers jours, des derniers avant-derniers jours, disons, de la guerre de Troie. Et l'Odyssée, qui est le récit du retour d'un des personnages de l'Iliade, Ulysse, dans sa patrie, l'île d'Ithaque. Donc, si vous voulez, on a deux grands fleuves qui ont irrigué toute la littérature. Et puis, on a aussi, entre les deux, quelques images, quelques extraits de ce qui a précédé ou de ce qui a suivi. Par exemple, dans l'Iliade, on ne décrit pas la destruction de Troie, qui a été décrite ensuite par d'autres poèmes par la suite. De la même façon, on ne décrit pas l'origine de la guerre de Troie, qui est en fait l'enlèvement d'Hélène à son mari Ménélas par un berger Paris, c'est ce qui déclenche donc la guerre. Et ça, ce sont des œuvres qui ont été illustrées par les peintres, parce que ça venait de textes qui eux-mêmes n'appartenaient pas au corpus homérique.
Est-ce que l'œuvre, donc l'Iliade et l'Odyssée, hein, pour rappeler un peu ces deux grandes œuvres, sont très imagées par rapport, par exemple, à Victor Hugo, que l'on voit ici en tableau et qui s'appuie sur Homère.
Imagées dans le sens...
C'est-à-dire, quand on lit Victor Hugo, on peut imaginer pratiquement, un journaliste peut imaginer, confier ça à un peintre qui va faire un tableau très précis. C'est vraiment pratiquement visuel tout ce qu'il décrit. Hein. En termes de mots, d'images, on retrouve les situations, les contextes, on pourrait vraiment faire des tableaux. Est-ce que dans Homère, il y a cette abondance de détails qui permettrait de faire des portraits, d'imaginer des scènes particulières?
Alors oui, oui et non. C'est-à-dire qu'Homère ne décrit pas précisément, disons, les visages des personnages ou des choses que tout le monde était censé savoir à l'époque, puisque c'était des chants qui étaient repris par les Aèdes, et donc normalement, le portrait des personnages avait été fait, on connaît un peu leurs défauts, leurs qualités. Et donc, si vous voulez, ce qui est par contre décrit très précisément par Homère, c'est tout ce qui est technique. Bon, il y a la description du bouclier d'Achille dans l'Iliade, il y a la description de la fabrication du radeau chez Calypso dans l'Odyssée. Et ça prend des vers et des vers et des vers, et techniquement, c'est très, très, très bien décrit par Homère, qui était un fin ciseleur, disons, et un très bon bricoleur, voilà, on va dire. Donc ce qui a inspiré surtout peintres, graveurs, orfèvres, sculpteurs, dessinateurs et cinéastes, même, ce sont les grands épisodes des deux épopées. Par exemple, le combat d'Achille avec Hector, ou auparavant le combat d'Hector avec Patrocle. Et dans l'Odyssée, énormément de choses comme la rencontre avec les sirènes, avec Polyphème, le cannibale n'ayant qu'un œil. Charybde et Scylla un petit peu moins, ça a inspiré pas mal les gens, sauf qu'à aucun moment ces deux monstres sont vraiment décrits, donc ils sont déjà plus difficiles à imaginer. Et puis évidemment, tout ce qui touche aux femmes, donc la rencontre avec Nausicaa, la vie avec Calypso, la rencontre avec Circé et la façon dont Ulysse réussit à lever l'envoûtement qu'elle a préparé pour ses compagnons et lui. Et puis ensuite, le retour à Ithaque, qui sont des épisodes importants, avec la reconnaissance, la mort du chien, Argos, qui est le vieux chien qui va revenir son maître, la nourrice qui reconnaît Ulysse à sa blessure à la jambe, et Télémaque et lui qui se retrouvent. Donc plein de toutes sortes d'épisodes comme ça, et ça culmine avec évidemment le massacre des prétendants tout à la fin de l'Odyssée. Donc toutes ces scènes, qui sont des scènes fondamentales et puis qui sont frappantes, certaines sont très frappantes, le massacre des prétendants où tout le monde est massacré, y compris les servants, c'est très fort, très violent, très cauchemardesque, on va dire. Donc toutes ces scènes ont été l'objet de traductions par les peintres, par des dessinateurs, par des orfèvres. Et donc, si vous voulez, ça a été une source, et ça l'est toujours d'ailleurs, permanente et renouvelée d'inspiration.
Est-ce que cette violence, au travers de l'ensemble de l'œuvre et de ce voyage, hein, on la retrouve aussi dans la société, j'allais dire athénienne de l'époque, enfin, quand je dis Athènes au sens large ?
Elle doit d'une certaine façon figurer, en tout cas dans les antécédents, parce qu'on va la retrouver dans la plupart des grandes tragédies, des trois grands tragédiens grecs, qui sont toujours des histoires très sanglantes, très, très violentes, des histoires de meurtre, de vengeance, de malédiction, etc. Mais ça ne veut pas dire pour ça que la société était une société en guerre civile permanente, au contraire. On peut dire que le traitement de ces thèmes violent était une façon de conjurer la violence ancestrale, la violence mythique, la violence traditionnelle. Donc on ne peut pas dire que ces épopées et le théâtre qui va suivre dans les siècles suivants sont la traduction de la vie sociale, heureusement.
Quand on pense à cette phrase, ce dicton « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage », en fait, il a certainement fait un grand voyage. Beau, qu'est-ce qu'on peut entendre par beau dans un contexte aussi sauvage, d'une certaine manière ?
Dans le sens de Du Bellay, beau, ça veut dire on voit beaucoup, beaucoup de paysages, on vit des aventures formidables, etc. etc. Mais ce n'est pas un si beau voyage que ça, parce que la guerre de Troie elle-même, elle dure normalement une dizaine d'années. Le retour d'Ulysse dure à nouveau une dizaine d'années, donc c'est quand même 20 ans de pérégrination. Et si on le pense sincère, il a hâte de rentrer chez lui, de retrouver sa femme, quoi. Donc si vous voulez, beau voyage, oui. Un beau voyage comme ça, c'est valable quand on a 20 ans. Quand on en a plus, 40 au moins, donc hein, c'est le cas là. Il retrouve sa femme. Et est-ce que le jeu en valait la chandelle ? C'est à lui qu'il faut poser la question, je ne suis pas sûr. D'autant plus qu'il a risqué plusieurs fois sa vie.
Au départ, il est parti faire la guerre. Est-ce qu'il était obligé ? C'était une mission qui s'était donnée. Il le faisait au nom d'une collectivité qu'il voulait défendre.
À partir du moment où le Hélène a été enlevé par Paris et s'est réfugié donc à Troie, les Grecs, c'est la légende, hein, bon, les Grecs décident de faire la guerre, soit d'aller la reconquérir pour le compte de Ménélas, son époux, qui est le roi de Sparte, et soit de châtier les Troyens qui l'ont accueilli. Donc si vous voulez, il y a un mécanisme d'alliance entre les petits roitelets des différentes îles, des différents royaumes modeste qui forme toute une fédération. Et ça reste mystérieux, hein, parce qu'on ne sait pas très bien qui étaient les Troyens. Est-ce que c'était des Hittites ? Est-ce que c'était vraiment des Grecs aussi ? Enfin, il y a une espèce d'ambiguïté là pour l'instant sur la réalité de ces peuples-là. Mais en tout cas, les Grecs, ceux qui s'appellent les Achéens, partent de Sparte, d'Athènes, de ce qu'on connaît de la Grèce classique, disons, et vont vers Troie pour châtier donc les Troyens et reconquérir Hélène, évidemment. Je pense que ce qui fait jouer Ulysse dans ce cas, c'est qu'il est lui-même roi d'une île, quoi, et donc au titre de l'amitié, de l'alliance avec les autres, il se doit d'aller faire la guerre. Alors il y a évidemment toute une série de débats sur j'y vais ou j'y vais pas, mais pas chez Ulysse, c'est plutôt chez Achille, parce qu'Achille, bon, tout cet épisode avec Briséis, Achille et Agamemnon sont en rivalité pour une jeune esclave, enfin, et Achille se retire, boude, voilà. Et donc, si vous voulez, vous voyez, les alliances ne sont pas absolues, définitives en béton, mais elles peuvent être elles-mêmes sujettes à des fluctuations au cours de l'alliance. Quoi.
Homer a été à un moment donné consacré par le pouvoir en place, Athènes, aussi pour consolider, sinon former une unité nationale autour d'un oral devenu écrit ensuite qui sert un petit peu de support à toute une société. Tout ce qui a été décrit est quand même assez puissant, violent. Est-ce que la morale de cette histoire est que pour un Grec, il faut être fort, intelligent, quitte à trucider, si nécessaire, sans vergogne?
On n'a pas de données très précises sur comment la maladie... C'est comme toutes les sociétés. Il y a une morale, il y a une façon de, comment dirais-je, de considérer le monde, la société, la famille, les relations sociales, etc. Et puis les gens font pas forcément exactement tout ce qui est préconisé. Donc, si vous voulez, le texte homérique, les deux textes homériques sont devenus des espèces de classiques. On a appris à vivre dedans. On a appris aux enfants donc la langue. Hein, ce qui, à mon avis, ce qui est primordial là-dedans, c'est la langue grecque, tout d'un coup, qui éclot, qui naît en quelque sorte, parce que pendant longtemps, elle a été éclipsé en fait. Et donc de l'oralité qui régnait avant vient la graphie, l'écriture, les dictées, les préceptes, les exemples, disons, d'actions héroïques ou généreuses. Et du coup, ça crée toute ce qu'on appelle une culture. Le fait même que tout soit parfois très violent ne veut pas dire que ça incite à la violence. Mais ça montre que si on laisse s'échapper un certain nombre de principes, comme ça, bon, tout peut dégénérer en fait.
En termes d'image, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a lu autour d'Homère, de son œuvre, etc., est-ce que pour les artistes au travers du temps, notamment pour les cinéastes actuels, c'est une matière dans laquelle on peut puiser, voire même découvrir, quitte à détourner parfois des images connues, qui ne sont pas forcément non plus une réalité?
Oui, je pense que ça a été, bizarrement, alors que ça avait été déjà une source d'inspiration pour énormément de romans, de poèmes, d'essais, hein, beaucoup d'essais historiques, de réécriture aussi, hein, comme les voyages de Télémaque, de Fénelon, de réécriture destinée aux enfants ou à différents supports. Le cinéma s'est emparé des thèmes homériques dès la naissance du cinéma, ouais. C'est très drôle. Hein. Donc, oui, parce que ça met en scène des péripéties, des scènes avec des hommes, enfin de véritables protagonistes, engagés dans des batailles, ou dans des voyages, ou dans des aventures, ou dans des différentes formes de péripéties qui sont effectivement source d'images. Hein.
C'est pratiquement structuré comme une série.
Oui, on peut dire ça comme ça. Fragment de série, quoi. On aurait pu en fait continuer énormément les aventures d'Ulysse avant, après, les aventures d'Achille avant, parce que finalement on sait comment il meurt. C'est-à-dire, en fait, il faut prendre le raisonnement à l'envers. Il faut dire que les formes littéraires qui ont été inventées là sont des formes quasi éternelles, quoi, qui valent pour toute la culture occidentale, mais même pour les autres. Les récits, les contes, les légendes, les épopées, énormément de choses inventées ou écrites ne font que copier des modèles qui existaient déjà.
En production audiovisuelle, qu'est-ce que vous conseilleriez pour nos auditeurs? Qu'est-ce qui resterait ou qu'est-ce qu'il aurait encore à découvrir?
Par rapport à Homer, là on a choisi deux extraits de le film Troy 3, qui est très très bien parce qu'à cause des scènes de bataille, et puis avec Brad Pitt, et puis le film de Camerini, Ulysse, où Kirk Douglas et Ulysse et Sylvana Mangano à la fois jouent Pénélope et je ne sais plus quelle autre femme, peut-être Nausicaa, je ne sais plus. Enfin, ces deux films qui sont tout à fait agréables à visionner, sauf que Troy est à mon avis beaucoup plus fidèle au texte de l'Iliade que Ulysse ne l'est à celui de l'Odyssée.
Donc certains auteurs ont peut-être imaginé des suites à cette œuvre, à ces œuvres d'Homère. Est-ce que vous pensez qu'on peut transmettre ou aller au-delà, transcrire d'autres aventures qui pourraient avoir un rapport qui ait du sens encore maintenant?
Ah oui, la preuve, c'est que les frères Cohen ont fait ce film qui s'appelle « Oh Brother », où il y a des péripéties modernes qui évoquent directement l'Odyssée. Comme Joyce a fait avec le Dublin du début du XXe siècle, en replaçant tous les épisodes dans un contexte urbain moderne, on peut absolument reprendre les scénarios de l'Iliade, de l'Odyssée, plus de l'Odyssée que l'Iliade, parce que l'Iliade c'est quand même assez linéaire, et puis en faire des films modernes, ou même ça serait peut-être plus difficile, ou même classique, quoi.
Merci beaucoup. On rappelle votre nom ?
Alain Jaubert.